réfléchissant au culte de l'été, je me suis dit que ça serait bon que ce matin on soit enseigné. J'ai pensé à deux personnes en particulier, l'une d'elles était Guy Gentison. La dernière fois qu'il est venu prêcher, c'était le 23 février, avant toute cette période de confinement. Et il nous avait parlé de quelque chose sur laquelle j'avais envie qu'il rebondisse. C'était, vous vous souvenez de l'épisode de Paul et Silas à Philippe, qui louaient dans l'adversité, dans la prison. Et puis quand je me suis dit, mais si Guy vient nous est disponible pour prêcher, j'aurais bien envie qu'il nous dise comment il a vécu toute cette période. Est-ce que finalement sa prédication, il l'a mis en action? Ça, je n'ai pas de doute. Mais peut-être qu'il a quelque chose à nous apporter, une réflexion complémentaire, et je pense qu'il a poursuivi sa réflexion, et je me réjouis de l'entendre. Alors peut-être que si, suite à cette première prédication, il y a quelqu'un aussi qui a été porté pendant cette période par ce qu'il nous avait enseigné, après il y aura le temps pour un ou deux témoignages. Et on prendra aussi un temps de prière, on n'a pas prié pendant la louange, mais voilà, on est resté dans la présence du Seigneur. Merci Guy, le Seigneur te bénisse, ouvre nos cœurs, et que les yeux, les oreilles de notre cœur, de notre esprit, soient ouvertes à ta parole et celle du Seigneur. Sois béni.
Merci beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai continué de réfléchir un peu quand même, tout ce temps de confinement, et en particulier il y a un psaume sur lequel je me suis beaucoup arrêté, qui m'a renouvelé, qui m'a interpellé, qui m'a fortifié. C'est un psaume que je suis sûr la plupart d'entre vous connaissent, surtout les aînés. Vous êtes un peu plus âgés que moi, les aînés. Ça m'a beaucoup touché, frappé tout au long de ces décennies, de voir que la reconnaissance était quelque chose qui habitait vos cœurs, je pense d'une manière très très particulière, très sensible. Alors moi j'ai été porté sur cette dimension de la reconnaissance à travers ce psaume 103, qui est un psaume très très beau de David. On va en découvrir quelques facettes ce matin. C'est un psaume qui est très particulier, parce qu'il contient uniquement de la louange. Il n'y a aucune demande. Aucune demande. Alors, quand Pierre-André m'a interpellé tout à l'heure pour dire « Mais qu'est-ce que tu as vécu depuis le mois de février ?» Eh bien, quelque chose qui m'a fortifié puissamment à travers ce qu'on va découvrir. Et c'est vrai que naturellement, je suis assez prompt le matin dès que je me réveille à demander à Dieu, j'ai toute ma liste de commissions. Et puis, ce n'est pas naturel pour moi de simplement m'arrêter de la sorte, de dire, mais avant tout, Seigneur, j'aimerais te remercier pour la nuit de repos, toute ta fidélité, ta bonté, qui s'est exprimée de tellement de manières, etc. Alors, on fait un bout de parcours dans ce psaume que certains qualifient de l'Himalaya des psaumes. Voilà, chaîne de montagne de l'Himalaya, il y a des hauts sommets, on en découvrira quelques facettes. De David, « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je ne pense pas que c'est la méthode Coué. Consiste à se dire, bon, il faut que je loue Dieu, que c'est à l'arrache comme ça, juste avec la volonté. Je pense que David a un cœur qui a été visité par Dieu tout au long de sa vie, de manière particulièrement sensible, et qu'il sait que finalement, il y a là une clé, une ressource. Et dans la louange, il n'y a jamais une formule. Ce n'est jamais un truc, la louange. Mais je crois que c'est le Seigneur qui met à nos dispositions une arme spirituelle qui peut être tellement, tellement appréciable dans les temps où nous sommes. Et ça commence par cette invitation à louer Dieu pour de multiples choses. On ne sait pas exactement ce que recouvrent ces expressions. Tout ce qui est en moi. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il ne s'agit pas de notre corps, de notre âme, de notre esprit ? Alors ça peut être parce qu'il y a une bonne nuit de sommeil, et puis peut-être que si on a des fois et souvent des mauvaises nuits de sommeil, le fait de pouvoir le remercier, au moins quand il y a une nuit de sommeil qui est bonne de temps en temps, ça nous permet de mettre en place, de nous positionner dans la journée d'une manière qui peut être stimulante. J'ai partagé avec un groupe de Brésiliens il y a une dizaine de jours ce psaume comme ça, puis je les ai mis au défi dans le fond de dire des éléments. Je ferais volontiers cet exercice ce matin si on avait un cadre différent que celui d'un culte, mais pourquoi est-ce que je peux remercier Dieu ? Et puis voilà, je leur ai tendu la perche, et en particulier il y a un de ces Brésiliens qui m'a beaucoup touché par rapport au Covid, parce qu'il avait des membres de sa famille au Brésil qui avaient atteint du Covid, et puis il en connaissait aussi des personnes en Suisse, et il avait été en contact, il a vu ces personnes, et il a dit, mais c'est impressionnant de voir la difficulté, quand elles sont sévèrement atteintes, de pouvoir respirer. Alors, quand il lit cette parole, il dit, moi j'ai envie de dire merci à Dieu pour ce qui nous semble tellement naturel, pouvoir respirer. Et peut-être que si un jour on a été hospitalisé, qu'on a dû bénéficier justement d'un apport en supplémentaire en oxygène, ça ouvre d'autres dimensions. Voilà, je pense que chacun d'entre nous peut réfléchir par rapport à toutes ces dimensions. Bien sûr, ça peut être la nourriture, le vêtement, la paix, ça peut être beaucoup de choses, mais si on peut déjà placer dans chacune de nos journées un moment comme ça de tranquillité et de réflexion à ce sujet, je pense que ça peut nous aider à nous mettre en connexion, à nous mettre au diapason de Dieu de la bonne manière. Ensuite, David va exprimer des affirmations fracassantes. Je pense que c'est aussi ce qui nourrit sa louange, sa motivation de bénir Dieu, de louer Dieu. Et là, c'est impressionnant, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Wow. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. Puis là vient mon verset préféré dans cette liste. Je pense que je ne suis pas le seul. Je m'accroche à ça, cette affirmation. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est cool. Je dis ça ce matin au Seigneur. Ben, rajeunis-moi un petit peu, donne-moi la force de l'aigle pour pouvoir apporter ces moments de partage. Si je pouvais faire un sondage pour dire quel est pour vous l'expression du domaine où il vous semble que c'est surtout ce dont vous avez besoin maintenant, ce serait intéressant de voir ce qui ressort. Moi, je vous ai dit ma phrase préférée, en tout cas l'affirmation préférée ou la promesse qui est contenue là-dedans. Peut-être que vous en avez une autre de ces expressions qui vous rejoint bien. Ça dépend, je pense, de ce qu'on est en train de vivre, en fait. Mais en réalité, il y en a quand même une autre qui m'a surtout parlé et qui m'a surprise. C'est l'affirmation du fait que Dieu pardonne toutes mes fautes. Et on verra un petit peu plus loin dans le texte qu'après cette expression au plan personnel de la louange, finalement, David va l'ouvrir, cette dimension, à l'ensemble du peuple, de manière collective, pour l'entraîner dans cette dynamique de louange. Et on le verra aussi par rapport à cette question, cette notion du pardon. Quand est-ce que c'est la dernière fois que je me suis repenti ? parce que j'avais pris conscience qu'il y avait du péché dans ma vie. J'ai eu toute une période ces dernières semaines où cette thématique m'a beaucoup interpellé. Et j'ai réalisé dans le fond que la notion du pardon, c'est ce qui ouvre la porte à une communion avec Dieu, pour que notre vie soit mise en règle. Et si on maintient du péché dans notre existence, conscient ou pas, cette communion, elle est comme voilée. On n'entre pas dans la plénitude de ce que Dieu a en réserve pour nous. Et ça, c'est dommage. Et dans... ça m'arrive de faire des exercices comme ça de prière, et sur la base de ce que les moines vivaient au IVe siècle déjà. Il y a une phrase qui revient de temps en temps dans mon parcours et qui consiste à me poser la question devant Dieu, est-ce qu'il y aurait un péché dans ma vie dont je suis peut-être pas vraiment conscient, est-ce que je suis prêt à prendre le risque de demander à Dieu qu'il me montre ? Et ça me rase, ce genre d'exercice, je vous dis honnêtement. Ben, j'ai l'impression, bon, ben, c'est des choses qu'on connaît, qu'on sait. Et pourtant, je suis assez effrayé de voir que si je fais un moment de silence, comme ça nous a été conseillé ce matin, que je demande simplement, Saint-Esprit, montre-moi s'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas au clair avec toi. Ben, je suis assez étonné de voir que assez rapidement, ça peut déjà être simplement dans ma relation conjugale, où je n'ai pas été flamboyant peut-être ces derniers jours, j'ai été peut-être dur de cœur avec ma femme, mais ça peut être tellement d'autres choses, tellement d'autres choses. Mais quand c'est le Seigneur qui nous les montre, qui nous en donne la conviction, et qu'on peut déposer ça devant lui, dire merci Jésus parce que toi tu es venu, pour payer le prix. Tu es venu pour effacer mon péché. Tu es venu pour me purifier. Ben, ça renouvelle notre joie, notre paix, une force spirituelle aussi. Et je pense que c'est un exercice qui peut être tout à fait salutaire. On va continuer un petit bout de chemin. On va lire un verset. Là, on est dans la dynamique de l'histoire du peuple de Dieu. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits au peuple d'Israël. C'est quelque chose de magnifique. Certains disent, c'est l'Himalaya des psaumes, d'autres disent, c'est une Bible en miniature, le psaume 103. Et bien sûr, quand on parle de la vie de David, tout ce qui a été son existence, quand on parle de l'histoire de Moïse, on pense à la rédemption, à cette sortie d'Égypte du peuple d'Israël, avec des miracles, à cette rencontre de Moïse sur la montagne du Sinaï pour recevoir les tables de la loi, la révélation de Dieu par rapport aux commandements, qui ne sont pas des « tu dois faire, tu ne dois pas faire », ceci, c'est les commandements, c'est vaste, c'est toute la dynamique de l'Alliance, le fait que Dieu s'engage avec nous. Il nous accompagne, il marche devant nous, il nous donne des promesses. Il manifeste sa fidélité, sa bonté. Voilà tout ce que Dieu fait et est pour son peuple, pour ses enfants. Mais ses enfants, qu'en ont-ils fait ? Eh bien, on sait que toute cette génération qui est sortie d'Égypte, qui avait assisté à tous ces miracles, ils ont rapidement fabriqué un veau d'or. Ils ont été incrédules. Au point que, à part deux des espions qui ont été envoyés dans la terre promise, aucun des membres de ce peuple qui est sorti d'Égypte n'a pu entrer dans la terre promise. Et c'est pourquoi, dans ces versets, ce contraste avec la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, nous fait goûter à son amour d'une manière profonde. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. On réalise que c'est par rapport à tous ces événements que je viens de décrire. Il ne conteste pas son fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire qui le respectent, qui le prennent au sérieux. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. On voit tout ce vocabulaire qui est utilisé par rapport à la diversité des péchés dans lesquels on peut être entraîné. Je me souviens, quand j'étais pasteur en France, j'avais pas mal de contacts avec des personnes qui venaient de l'Église catholique. Et il y en a un qui était un peu gêné parce que j'étais pasteur, il ne savait pas s'il fallait m'appeler mon père. Voilà. Et il me disait, mais vous savez, je ne fais pas de mal. Je ne fais pas de mal. Moi, je suis très bien, non ? Quelqu'un qui vous dit, je ne fais pas de mal. C'est magnifique. Mais j'étais quand même poussé à lui dire, mais qu'est-ce que vous faites de bien ? À part ne pas faire de mal. Parce que... voilà. Et dans le cadre de cette alliance que Dieu avait passée avec son peuple, il y avait quantité d'éléments qui étaient à vivre au quotidien et qu'Israël a négligé finalement et s'est détaché de Dieu. L'Église aussi a pu expérimenter ces dimensions à travers la venue de Jésus. Nous sommes entrés dans cette dynamique de l'alliance, de la nouvelle alliance. Les apôtres, la première Église, ont vécu des miracles extraordinaires. L'Église, par la suite aussi, a découvert tout au long des siècles. Quantité d'intervention de Dieu, et encore jusqu'à aujourd'hui, nous le croyons. Mais je crois aussi que nous pouvons être entraînés comme Israël dans l'incrédulité, dans la dureté de cœur, dans les habitudes. Notre relation avec Dieu est peut-être comme celle d'un couple qui a déjà des décennies de mariage et puis finalement il y a eu beaucoup d'habitudes qui sont là, peut-être un peu de poussière dans les coins. Il faut un petit coup de balai, peut-être un souffle de l'esprit qui vient redynamiser tout ça. Alors je termine par encore un titre qui a été donné à ce psaume. Quelqu'un disait, finalement, ce psaume, c'est un hymne à l'amour. C'est un hymne à l'amour parce qu'à travers le vocabulaire qui est utilisé, ces images d'un père comme un père rempli de compassion, bien, Dieu manifeste sa compassion pour nous. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Là, on n'est pas dans la dimension du bon Dieu, hein, simplement comme ça. On voit que c'est un Dieu, dans le fond, qui est étonnant de la richesse de sa révélation, de la beauté de sa personne. Et quand on dit c'est un hymne à l'amour, je crois que c'est dans deux sens. Hein. À la fois, on découvre cet amour de Dieu profond, incroyable, inouï, qui a été encore révélé d'une manière spectaculaire à travers la venue de Jésus, bien sûr, mais déjà, simplement, ce qui était révélé de Dieu dans la première partie de la Bible, dans le Premier Testament, était quelque chose de tellement magnifique. Et les anciens avaient l'habitude de dire, dans sa miséricorde, Dieu ne nous inflige pas ce que nous mériterions, et dans sa grâce, il nous accorde ce que nous ne mériterions pas. Tout un programme de vie. Et en réponse, en écho à cet amour de Dieu immense, incommensurable, profond, riche, nous sommes appelés à nous aussi l'aimer, lui donner notre vie, à lui obéir. Et la clé de la bénédiction, c'est l'obéissance. Donc toutes les promesses de la Bible sont conditionnelles. Moi, j'étais touché par ces versets aussi par rapport à la bénédiction qu'on peut transmettre à nos enfants et même à nos petits-enfants, à toute cette chaîne de bénédiction qui peut se transmettre. Mais c'est clair que le diable, il va essayer de nous empêcher d'être dans cette plénitude de vie par le Saint-Esprit. Il va essayer de voiler nos cœurs, les empêcher de marcher dans la fidélité. Il nous tend des pièges. Et c'est pourquoi il est si important, si essentiel de pouvoir nous raccrocher à sa parole. Prendre du temps avec sa parole, prendre du temps dans la prière, dans la louange, le remercier pour son amour incroyable. Nous voulons encore chanter. L'équipe nous a proposé un chant.
Don't.